You're with SBS Radio.
Les grands titres de ce mardi, le Premier ministre australien et le chef de l'opposition fédérale font des visites éclairs dans plusieurs circonscriptions du pays à quelques jours des élections fédérales du 18 mai prochain. Les militants écologistes soutiennent leur décision de franchir le pont du port de Sydney pour protester contre le changement climatique. Les Matildas annoncent l'équipe qui représentera l'Australie à la Coupe du Monde en France en juin prochain. Le Premier ministre Scott Morrison fait une campagne dans trois États clés alors que les libéraux tentent de conserver des sièges vulnérables avant le jour des élections samedi prochain. Le Premier ministre a commencé la journée à Adélaïde, la capitale de l'Australie méridionale, où la priorité est au siège de Boothby. Il s'envolera ensuite pour Geelong dans le Victoria avant de se rendre en Tasmanie. Et c'est là que le chef de l'opposition Bill Shorten a commencé sa journée avec l'espoir des travaillistes de remporter deux sièges en Tasmanie. S'adressant à des partisans dans un pub à Launceston, Bill Shorten a déclaré que son parti était le seul à pouvoir apporter un véritable changement.
The choice is more chaos under the current government, more cuts to health services, no action on climate change, no action on the cost of living or wages, no proper childcare support, no support for the pensioners with the basics like their dental care. Labour, on the other hand, is a vote for real change.
Bill Shorten, le chef de l'opposition, a aussi déclaré que le Parti travailliste prévoyait d'agir pour augmenter les salaires si un gouvernement Labour est élu. News Corp a annoncé que Bill Shorten envisageait de supprimer la soumission du gouvernement fédéral concernant le salaire minimum et de déposer une nouvelle proposition visant à augmenter les salaires des travailleurs dès le 1er juillet si le Labour est élu. Le Parti travailliste a condamné la distribution de pamphlets racistes ciblant la députée Anne Ali dans son électorat de Cowan, dans la banlieue nord de Perth. L'ABC rapporte que les tracts font référence à Anne Ali par son nom égyptien Aza Mahmoud Fawzi Hosseini Ali El Serouji, qu'elle avait défendu les Verts, qu'elle avait voté pour affaiblir les frontières australiennes et qu'elle soutenait, je cite, l'interdiction de toute critique de l'islam comme l'Arabie Saoudite. Le Labour affirme que le contenu n'est pas autorisé, mais jusqu'à présent, aucun groupe ni parti politique ne l'a revendiqué. La porte-parole de la campagne électorale du Parti travailliste, Madeleine King, souhaite que d'autres partis politiques se joignent au Parti travailliste pour condamner le matériel. Scott Morrison exerce de plus en plus de pression sur les candidats indépendants pour qu'ils déclarent quel parti ils soutiendraient s'il y avait un Parlement suspendu après samedi prochain. Cette poussée intervient alors que la coalition doit remporter des sièges du Parti travailliste et des indépendants, ainsi que conserver ceux qu'elle a déjà si elle veut avoir une chance de conserver le pouvoir après le 18 mai. Scott Morrison a mis en garde les Australiens contre le vote pour les indépendants, car ils ne seraient pas qui ils vont aider à former le gouvernement. Le sénateur libéral Matthias Cormann a soutenu Scott Morrison.
We do believe it's fair and reasonable for the Australian people to know in the context of independents running at this election what they would do should they be successful on Saturday. We think that is only fair and reasonable.
Le sénateur libéral Matthias Cormann, 13 personnes ont été arrêtées après que des militants écologistes aient franchi le pont de Sydney Harbour Bridge pour demander des mesures de lutte contre le changement climatique. Certains des partisans du groupe Greenpeace se sont lancés du côté du monument, l'un d'eux en dessous et des bannières déployées portant les mots 100% énergie renouvelable et faire du charbon une histoire du passé. Le directeur de Greenpeace Australia Pacific, David Ritter, rejette les questions concernant la légalité de l'action de cette manifestation.
The Sydney Harbour Bridge is an iconic location. What better place to call for Prime Minister Scott Morrison to act on the climate emergency that is already on us? Australian families are already suffering from climate damage, from floods and fires and storms and drought. It's time for Prime Minister Scott Morrison to declare a climate emergency, to announce a plan for Australia to shift away from coal to clean energy.
Le directeur de Greenpeace Australia Pacific. La famille de l'Australienne Sarah Zelenak, qui a été poignardée à mort lors des attentats terroristes de Londres en 2017, veut remercier la famille d'un passant qui aurait tenté de l'aider à se relever après sa chute. Sarah Zelenak sortait avec un ami lorsque trois assaillants ont conduit une fourgonnette contre les piétons sur London Bridge avant de sauter et de poignarder des personnes, faisant 8 morts le 3 juin 2017. Une enquête au tribunal pénal de Londres a Old Bailey a révélé que le Britannique James McMullen essayait d'aider Sarah après qu'elle soit tombée en fuyant les assaillants alors qu'ils étaient tous deux poignardés à mort. Julie Wallace, la mère de Sarah, déclare qu'elle est reconnaissante à James McMullen d'avoir tenté de sauver sa fille.
I'm sad that I can't thank him. His family weren't there today, but I do want to get in contact with his family so I can thank them for trying. Yeah. That's sad. All part of the chain of events that happened that evening.
Julie Wallace. Les avocats représentant la victime suédoise dans une enquête pour viol impliquant le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, ont exhorté les procureurs suédois à procéder rapidement à leur enquête avant l'expiration du délai prévu. Les procureurs suédois ont rouvert l'enquête et sont sur le point de demander l'extradition de Julian Assange du Royaume-Uni où il purge une peine de 50 semaines de prison pour avoir refusé d'observer les règles de sa caution. L'avocat de Julian Assange, Greg Barnes, affirme que la décision de rouvrir l'affaire est motivée par des considérations politiques.
This has got politics written all over it. There's been a fair go given to the Swedes. They actually finally went to the Ecuadorian embassy. They interviewed Julian. And at the end of that, they decided to close their files. One can only surmise that the hand of the United States is in this.
L'avocat Greg Barnes et Julian Assange rejettent les accusations portées contre lui. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé qu'il rencontrerait le président chinois Xi Jinping au sommet du G20 à la fin du mois de juin, au beau milieu de la dernière escalade des tensions commerciales entre les deux pays. La Chine a riposté à la dernière hausse des droits de douane sur les exportations américaines en annonçant des droits plus élevés sur une gamme de produits américains équivalent à 60 milliards de dollars. Donald Trump s'est engagé à prendre de nouvelles mesures pour aider son pays malgré l'augmentation des droits de douane sur les importations chinoises d'un montant de 200 milliards de dollars à 25% depuis vendredi dernier. Il a déclaré aux journalistes qu'il était impatient de rencontrer le président Xi Jinping en juin.
China has been taking advantage of the United States for many, many years. I'm not just talking about during the Obama administration. You can go back long before that. We're dealing with them. We have a very good relationship. Maybe something will happen. We're going to be meeting, as you know, at the G20 in Japan. And that'll be, I think, probably a very fruitful meeting.
Et c'était Donald Trump. Et puis, une visite qui fait polémique, celle de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui est aux États-Unis, où il a rencontré le président américain Donald Trump. Le Premier ministre hongrois est connu pour ses discours nationalistes et eurosceptiques. Reportage de Anne Corpé pour Radio France Internationale.
C'est un grand honneur de vous recevoir ici. Vous êtes un homme très respecté, un peu controversé comme moi, mais cela n'est pas grave, a déclaré Donald Trump en recevant le Premier ministre hongrois. Nous avons des approches similaires dans notre combat contre l'immigration illégale, a de son côté souligné Viktor Orban. Cette proximité affichée va sans doute hérisser les démocrates. Ils dénoncent depuis plusieurs jours la visite du dirigeant hongrois, porteur selon eux de valeurs contraires à celles des États-Unis. Dans un courrier à la Maison-Blanche, les élus de la Commission des affaires étrangères du Sénat, issus des deux partis, ont pour leur part demandé à Donald Trump d'évoquer l'érosion de la démocratie en Hongrie devant son interlocuteur et alerter le président sur la menace que représente Viktor Orban pour les intérêts américains en Europe. Du côté de la Maison-Blanche, on fait savoir qu'il s'agit de contrer l'influence russe et chinoise en Europe de l'Est. Ils entendent notamment manifester leur inquiétude au sujet du développement de la 5G chinoise en Hongrie. Les Américains espèrent aussi et surtout vendre des armes et du gaz naturel. Pour Donald Trump, l'essentiel est toujours de conclure des affaires et de ravir des parts de marché.
Anne Corpé pour RFI. Le Sri Lanka a fait face à des émeutes anti-musulmanes après les attentats du 21 avril dernier contre des églises catholiques et des hôtels de luxe organisés par des islamistes locaux et revendiqués par le groupe Daesh dans le nord de Colombo. Des groupes armés ont saccagé des mosquées et des magasins tenus par des musulmans. Un couvre-feu national est en vigueur et les réseaux sociaux coupés par le gouvernement. Le point avec Sébastien Farsi pour RFI.
Tout semble avoir commencé dimanche dans la ville de Kiniyama, à 100 km au nord de Colombo. Les forces de sécurité en charge de trouver les complices des terroristes du mois dernier viennent de fouiller un lac pour s'assurer que des armes n'y sont pas cachées. C'est alors qu'un groupe d'habitants mené par des moines bouddhistes exige que la mosquée voisine soit également inspectée. Face à la résistance des religieux, plus de 1000 personnes armées de barres de fer et d'épées forcent l'entrée, saccagent tout le bâtiment et profanent les Corans. Des groupes d'assaillants, souvent à moto, répandent ensuite cette violence au village voisin pendant plus de 24 heures, abîmant deux autres mosquées et des dizaines de magasins tenus par des musulmans. Ce sont les pires violences depuis les attentats du 21 avril et le gouvernement sri-lankais a donc rétabli les mesures d'exception prises alors. Couvre-feu pendant toute la nuit et large coupure des réseaux sociaux qui sont utilisés pour répandre des rumeurs et organiser ces saccages. La police a promis des punitions exemplaires, mais son impuissance à empêcher cette flambée de violence ne rassure pas la communauté musulmane.
Sébastien Farsi pour RFI. Il y a eu des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie dimanche dernier. Le point avec Anne Swetmont pour RFI.
La majorité est très courte. Selon des chiffres officiels, 28 élus sur 54 pour le camp loyaliste, 26 pour les indépendantistes. Un scrutin marqué à droite par un renversement des équilibres. Calédonie Ensemble, parti de la droite modérée qui dirigeait la riche province sud et le gouvernement, essuie une cinglante défaite au profit de son rival L'Avenir en Confiance, soutenu par les Républicains à la ligne plus dure. Côté indépendantiste, si la dynamique se confirme dans le Nord et les îles Loyauté, elle n'a pas été suffisante pour permettre aux indépendantistes de prendre les rênes du Congrès. Il y a 6 mois, le oui à l'indépendance avait pourtant obtenu 43% des voix avec une participation record. Un nouveau congrès qui aura une lourde responsabilité, échafauder avec Paris un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux accords de Nouméa, une tâche qui s'annonce complexe tant les positions des uns et des autres sont diamétralement opposées.
Anne Swetmont pour RFI. Enfin, la disparition de Doris Day, la chanteuse et actrice américaine, icône des années 50 et 60. Elle avait 97 ans et elle est morte des suites d'une pneumonie à son domicile en Californie, entourée de ses proches. Son portrait avec Sébastien Gédor pour RFI.
Hey,
Le destin de Doris Day s'est joué un soir d'octobre 1938. Marianne von Kapeloff, de son vrai nom, rentre de Hollywood quand la voiture où elle a pris place percute un train. Fractures à la jambe, pour l'adolescente de 16 ans, c'en est fini des rêves de danseuse. Pendant sa convalescence, Doris Day écoute énormément de jazz. La jeune fille blonde, native de Cincinnati, se lance dans le musical. Avec sa voix sensuelle, le succès est fulgurant dans les années 40. Le titre Sentimental Journey symbolisera les espoirs de retour des GI après la victoire de 1945. Après-guerre, le cinéma lui ouvre ses portes. Doris Day tourne une quarantaine de films, catalogués comme des vaudevilles, au premier rang desquels Confidence sur l'oreiller avec Cary Grant et Rock Hudson en 1959. Mais son rôle le plus marquant, Doris Day le doit à Alfred Hitchcock dans L'homme qui en savait trop en 1956. Elle incarne une mère dont l'enfant est enlevé par des espions et c'est elle qui interprète Qui sera sera, chanson récompensée par un Oscar. Au tournant des années 70, Doris Day arrête le cinéma, l'actrice se tourne vers la télévision et la défense des animaux, une cause pour laquelle elle n'hésitait pas à appeler directement au téléphone Ronald Reagan quand l'acteur devenu président occupait la Maison Blanche.
Sébastien Gédor pour RFI. Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. Perth maximal de 26 degrés, Adélaïde 20 degrés, Melbourne 19, Hobart 15, Canberra 18, Sydney 24, Brisbane 25, Cairns 28, Darwin 33 et à Alice Springs maximal de 23 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 14 mai. Le Premier ministre australien et le chef de l'opposition fédérale font des visites éclairs dans plusieurs circonscriptions du pays à quelques jours des élections fédérales du 18 mai prochain. Les militants écologistes soutiennent leur décision de franchir le pont du port de Sydney pour protester contre le changement climatique. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.